Chers amis, Hachem Alechem Tihyu, Léor et Chanim Tovim et Chanim Niemi. Nous poursuivons notre étude de Parashat Shemot. Nous sommes arrivés là où Amram va reprendre Yocheved pour épouse. Donc il a déjà deux enfants et à cause de la Gezera, Kol Ben Ailod Ayora Tashkichou, Pharaon a décrété sur le conseil de ces sorciers astrologues qui ont vu qu'il y allait un sauveur qui allait voir le jour. Donc, ils ont décidé de jeter au Nil parce qu'ils se sont dit, la Kadosh Baruch Hu ne détruit pas le monde, ne détruit plus le monde par l'eau. Donc, ils ont pensé qu'on pouvait le jeter au Nil. Donc, en fait, ils ont jeté même les Égyptiens. Alors, il y a marqué, Vaïlech Ish mi Bet Levi, Vaïkah et Bat Levi, Vaïlech Ish. Alors, cette formulation se retrouve aussi dans Paracha, dans la Megillat Ruth, quand Elimilech quitte avec sa famille, Bethlehem pour aller au Moab. Alors, il dit, où il va chercher le sauveur d'Israël. Il va aller récupérer l'âme, la Neshama Théora de Ruth pour la ramener afin que David Améler voie le jour. Donc c'est Vaïlech Ish. Ish, c'est Akadosh Baruch Hu, nous dit le Zohar. Il est parti, donc il change. C'est-à-dire que c'est quoi partir, Vaïlech? C'est-à-dire qu'il est dans une posture. Donc on est dans une situation telle que on subit les choses. Vaïlech indique qu'il part et il se met en mouvement, il change de posture, c'est quelqu'un qui va agir pour changer les choses. C'est la même idée qui est valable aussi pour Elimelech. Alors, Vaïlech Ish mi Bet Levi, Vaïkah et Bat Levi, donc il s'est remarié avec sa femme, Yocheved, la fille de Levi. Pourquoi faire? Alors, parce que sa fille lui a dit, Pharaon a décrété la mort de jeter les garçons, et toi tu décrètes aussi pour les filles. Mais quelle est cette idée qu'elle développe? Elle veut en fait, elle utilise un argument parce que elle dit tu peux avoir une fille, tu peux avoir encore une fille, alors qu'en vérité il ne s'agit pas d'une fille, il s'agit certainement d'un garçon. Et c'est ce garçon-là qu'elle veut faire venir au monde. Donc, Moshé Angel Israël. Donc, c'est-à-dire qu'il y a ici un argument qui est a priori faux et qui va amener Amram à donner naissance à Moshé. Alors, remarquez, Vatahar Aisha Vatelet Ben, la femme, a conçu et a donné naissance à un garçon. Vatere Oto Kitovu. Donc, elle a vu qu'il était Tov. Où, lui? Alors, que signifie Kitovu? Alors, le Midrash dit que Moshe est né circoncis. Ou Moshe, ou bien, Kshinola Ditmala Bait Kulora. Rashi ramène ce Midrash, qui indique que dès que Moshe est né, la maison s'est remplie de lumière. Bon, il s'agit de comprendre, est-ce que c'est à prendre au sens littéral ou au sens allégorique? Qu'est-ce que ça signifie que la maison s'est remplie de lumière? Est-ce qu'il n'avait plus besoin de s'éclairer à partir de la naissance de Moshe? Kitov. Alors, comment on arrive là? Parce qu'il y a marqué au sujet de la création de la lumière, au début, il y a marqué, voilà, j'ai qui est hors qui tov. Quand Dieu a créé la lumière, alors il a vu qu'elle était bien. Tov, on emploie le même terme, tov. Ou, lui. Alors, mais la question, elle se pose, toutes les mamans pensent que leur enfant, c'est le plus beau du monde, c'est le plus gentil, c'est le plus merveilleux. Elle s'émerveille devant chaque geste, chaque parole, chaque fois que l'enfant bouge, ouvre les yeux, cligne des yeux, balbutie quelques grognements, la maman s'émerveille. Chaque maman trouve que son enfant, surtout un nourrisson, il est le plus beau du monde. Donc il est tov. Alors qu'est-ce qu'il y a ici de particulier? Alors ici il y a marqué tov, ou pas bien qui tov, ou Be'etzem, il est Tov. Et fondamentalement, il contient le bien, le Tov. Et le Tov, il n'est pas uniquement un Tov, quelque chose de bien que l'on garde. Le concept du Tov, c'est que ce qui est bien est partagé. Il est bien pour tous, pour les autres. Il n'est pas Tov parce que pour la maman, il est Tov pour la globalité. C'est ça qu'il est dit, que la maison s'est remplie de lumière. Donc ça veut dire quoi, la lumière? La lumière, c'est l'espoir. En apercevant que l'enfant, en observant que l'enfant est né circoncis, on peut dire que c'est un signe, peut-être pas. En voyant que il rayonnait, cet enfant-là, était heureux de vivre, alors ça leur a donné l'espoir. Donc c'est pour ça qu'elle va se donner les moyens de le préserver. Donc elle a caché 3 mois. Donc si lui, il est né le 7 Adar, elle a caché 3 mois. Alors c'est-à-dire qu'en vérité, elle va le déposer Adar, Nissan, Iyar. Donc elle va le déposer le 6, le 7, le 6 Ivan. Le 6 Sivan dans le fleuve. Le 6 Sivan, c'est le jour de Matan Torah. Donc 3 mois après, c'est le jour du 6 Sivan. C'est le jour où, d'après une version, d'après un autre avis, elle le déposera le 21 Nissan. Donc il y a un décalage. Il y a deux versions, deux avis dans le Midrash. Donc ça veut dire, c'est-à-dire que Moshe, sa naissance, tout ce qui lui arrive, c'est indique quelque chose qui va se passer plus tard. De la même manière que lui, il va ouvrir la mer et qui va engloutir les Égyptiens, de la même manière que lui, il est posé dans l'eau, le Nil, l'eau symbolise la Torah. Alors, ce jour-là même, plus tard, il amènera le peuple à recevoir la Torah. Donc la finalité des choses. Alors elle ne pourrait pas le garder plus. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris une teva, elle a fait un berceau, elle a enduit, elle a protégé, et elle a mis sur le Nil. Alors les Mfarshim, Mkoubalim disent que Moshe, la Béhéna, le Hari parle de ça très longuement. Il dit que la Béhina de Moshe, c'est le Chesed Gamour. Moshe, il n'est pas un homme du commun. Il n'a pas sa dimension physique. Elle est réduite. C'est sa dimension spirituelle, sa structure spirituelle. Et de quoi est-il composé? Il est composé de bonté totale. La source de son âme émane d'un lieu éminent qui est la bonté totale. Alors, comparé à l'eau, c'est de l'eau. Maïm, Maïm, Teorim, Kedoshim. C'est la Torah, la Entorah et la Maïm. Ce n'est pas une formule de complaisance, c'est une réalité. La Torah, c'est l'eau et la vie. Donc, il est de cette dimension-là. Donc, son corps, le corps de Moshe, c'est un corps qui lui est prêté. Il n'est pas de conception physique en réalité. Il est de dimension. Certes, il est né d'un rapport entre un homme et une femme. Il a un corps physique. Mais nous allons voir tout au cours de sa vie, son corps physique est réduit. Ses besoins physiques sont réduits au strict minimum. Et qu'en vérité, c'est un personnage totalement spirituel. Et c'est cette eau-là qu'il contient, qui est de c'est cette eau, c'est Moshe, Maïm. On va voir qu'il y a un rapport avec l'eau. Donc c'est comme si que Yocheved remplit le berceau d'eau. Et après, elle le pose sur la rive, sur la berge en bas du fleuve. Et à ce moment-là, il est dit, va terre, bat paro, l'ichot à l'ayor. Donc la fille de Pharaon est descendue se laver dans le fleuve. Alors, se laver de quoi? Alors le Midrash dit, elle a voulu se laver des Guiloulé Betavia. Elle veut faire tshuva. Elle veut se laver des idoles, des souillures des idoles de son père. Elle veut changer de direction. Elle veut se détacher de son éducation, de sa civilisation, de sa culture, des idoles et de tout ce que la civilisation et l'éducation de son père lui a inculqué. Elle veut changer. Et alors ça, pour ce fait, elle veut se tremper, elle veut se laver de ça, elle veut se détacher de ses souillures. Ce qui est assez étonnant. Comment est-il possible que quelqu'un fasse tchouva si quelqu'un il s'adonne à l'idolâtrie? Alors il s'adonne à l'idolâtrie, il étudie les concepts de l'idolâtrie, il est totalement immergé dans ce système-là. Comment peut-il en sortir? C'est certainement pas en persévérant dans ce système qu'il pourra s'en sortir. Il faut une intervention extérieure. Il faut qu'il ait accès, qu'il y ait une fenêtre qui s'ouvre, qu'il ait accès à autre chose, à un autre livre, à une autre discussion, à d'autres idées. Donc c'est ce qui est marqué ici. La question elle est posée, comment la fille de Pharaon qui veut se détacher, se laver des souillures de son éducation et de la civilisation de son pays, de son peuple et l'éducation de son père, comment peut-elle se tremper dans le Nil? Voilà que le Nil lui-même, il est la source de cette éducation-là. Il est lui-même une idole. C'est comme si que l'eau elle-même, le concept du Nil lui-même, il est la Touma. Alors elle se trempe dans quelque chose de tamé. Et c'est pour cela, nous dit Rama Mifano, que Moshe est placé dans le Nil. Dans le Nil, comme si que, il y a un concept dans la Mishnah qui veut que si on a de l'eau qui est tamée, de l'eau qui a été impurifiée, alors on la met dans un récipient en pierre, et on immerge, on fait rentrer ce récipient-là dans le mikvé, jusqu'au moment où l'eau du mikvé touche, embrasse, juste, comme si que l'eau du mikvé touche à peine effleure l'eau contenue dans le récipient, et à ce moment-là, on peut retirer, parce que s'il est dit que Ashaka, cette Ashaka-là, elle rend l'eau du récipient pure. Alors, c'est ce qui se passe ici, mais c'est à l'inverse. L'eau du récipient, c'est Moshe. Moshe est mis dans le fleuve, et c'est comme si qu'il est mis dans le fleuve jusqu'à la limite de l'ouverture. Et c'est la présence de Moshe dans le fleuve va purifier, du fait que Moshe c'est l'eau, comme nous l'avons dit, il va purifier le fleuve, de sorte que la fille de Pharaon pourra s'y tremper et se purifier. Et c'est justement pour cela que de suite il est dit que quand elle l'ouvre, elle a vu le berceau, elle envoie sa servante, elle ouvre, va tirer où est taillé l'aide. Elle va tiftah, elle a ouvert quoi? Elle a ouvert le berceau. Mais qu'est-ce que ce berceau-là? Moshe, c'est la Torah. Elle ouvre le Sefer Torah et elle voit les lettres, elle voit la lumière. Va tirer où est taillé l'aide? Elle a vu cet enfant, va tirer où? Elle a vu, quoi, Rachid dit, elle a vu la Shekhina, elle a vu qu'il était Maoul, elle a la présence divine, elle a pris conscience. Tout d'un coup, cette femme prend conscience de quelque chose qui lui était inaccessible jusqu'à présent. Et parfois, les Égyptiens aussi voyaient les Bnei Israël. Vous pouvez voir les Bnei Israël, les Bnei Lévi n'ont pas servi. Nous étudier la Torah, on les observe, mais on observe, on voit rien, ils voient rien, ils n'ont pas les yeux pour voir. Ce que ils sont tellement, ils ont autour d'eux une carapace telle de Touma, le cœur est fermé, l'esprit est fermé, il y a une carapace qui ne permet pas de voir. Donc ils sont persuadés, convaincus, ils sont dans un système tel qu'ils n'ont pas d'ouverture vers autre chose. Ils ne peuvent pas voir la lumière. La lumière, de manière imagée, ils ne peuvent pas la saisir. Et là, après s'être trempée, elle voit, elle observe, elle va tirer où? Elle a vu la Shekhina. Comment c'est possible? C'est parce qu'elle s'est trempée. Donc elle voit Veinenar Boché, va Tahmol Alav, elle a eu pitié de lui. de celui-là, parce que celui-là, elle est liée à lui. Va-t-on mermer Alda Evrimze. Donc tout d'un coup, on voit que l'Ashgacha se perpétue, on voit que l'Ashgacha, elle se fait. Comment est-ce possible que la fille de Pharaon a décidé à un moment de vouloir voir autre chose, et qu'on lui a permis de voir, et qu'il y a, juste à cet instant-là, on a placé Moshe dans le Sissivan, le jour où la Torah est donnée, on a placé dans le Nil. Et ce Nil-là, tout d'un coup, il va devenir une possibilité de purification. Il va pouvoir purifier. Ça, l'idée. L'idée, c'est que l'Ashgacha Pratit se perpétue, même si elle n'est pas apparente. D'ailleurs, toute cette histoire-là, tous ces événements-là ne sont connus que de personnes. De la globalité de la société continue. Alors, les pharaons continuent sa politique et l'esclavage se perpétue. Les individus ne sont pas au fait de cela. Mais la Torah nous raconte cela comme si que il y a ce qui est apparent et ce qui est caché, ce qui se passe, ce qui se trame derrière les événements officiels. Comment ça se produit? Comment ça va être mené? C'est ça l'idée, c'est ça la Emouna en fait. C'est ça la Ashgacha Pratit. Baruch Adonai Eleolam. Amen ve'amen.